Le concordat ici qui est signé en 1801 a pour vocation de faire en sorte qu'il y ait donc une sorte de paix qui s'installe entre l'Église catholique et l'État français. Pendant ce concordat, c'est l'autorité française, l'autorité politique française, qui nomme les évêques. Et donc la liberté de manœuvre de l'Église catholique est quand même quelque peu restreinte. Le concordat, c'est une chose, mais il y a ce qu'on appelle les articles organiques, qui sont rédigés l'année suivante, en 1802, alors c'est en quelque sorte les décrets d'application. L'un d'entre eux indique que toute construction d'église doit systématiquement être subordonnée à l'avis du pouvoir politique. C'est-à-dire que des fidèles, des clergés, ne peuvent pas décider de construire une église en France si le pouvoir politique, si les autorités administratives ne sont pas d'accord. Et donc concorde, oui, à condition qu'on ne bouge pas trop. Certains vont dire, oui, mais le clergé était rétribué financièrement par l'État. C'est juste. En même temps, l'État l'a conçu à l'époque, en tout cas Bonaparte l'avait conçu à l'époque, comme étant une sorte de dédommagement par rapport à la spoliation des biens du clergé qui avaient été volés quelque temps plus tôt à l'époque de la Révolution française. Donc le début, je voulais indiquer déjà, donc je vais passer. Et nous en sommes ici donc au concordat avec les articles organiques. Le 2 décembre 1804 se produit le sacre de Napoléon, celui qu'on appelle désormais Napoléon. Simplement, ce n'est pas le pape qui couronne l'empereur, le futur empereur, c'est Bonaparte qui se couronne lui-même. Et la signification de ce geste en dit long quand même sur la manière dont Napoléon entend désormais exercer des relations par rapport donc à l'Église catholique. Donc en tout cas, vous comprenez ici que Napoléon donc essaie de prendre le pas, et j'ajoute peut-être un élément, c'est qu'il faut bien avoir conscience que l'empereur est, depuis Constantin au IVe siècle, celui qui a pour mission de protéger le pape. Que Bonaparte devienne empereur, sa mission c'est celle-là, c'est protéger le pape, protéger la catholicité. Or, ce n'est pas nécessairement exactement comme cela que les choses évoluent en quelque sorte. En 1806 est promulgué le catéchisme impérial. Le catéchisme impérial n'est pas un catéchisme tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. C'est avant tout un catéchisme à la gloire de Napoléon. C'est tourné vers Napoléon. Autre élément, le pape Pie VII est en séjour, si je puis dire, en France, mais d'une manière un peu particulière, exil forcé sur ordre de Napoléon à Fontainebleau de 1812 à 1814. Ces quelques points montrent qu'il y a une sorte de séquestration de l'Église catholique par le pouvoir politique en France. Et vous comprenez à ce moment-là que depuis le début de la Révolution française jusqu'à la fin de l'Empire, la situation n'a pas fondamentalement changé par certains côtés. Alors, on peut s'interroger à propos du retour de la monarchie et le fait qu'avec les Bourbons, entre 1814 et 1815 et jusqu'à 1830, avec Louis-Philippe c'est encore autre chose, mais on peut penser qu'éventuellement il y aurait eu une certaine relance de la foi à l'époque. Oui, je donnerai deux exemples, mais il n'y a guère que cela ou presque. C'est qu'il y a eu une accentuation importante mise sur la formation, et la formation du clergé avant tout, par le biais donc des séminaires. Et l'autre chose, c'était Pauline Jaricot qui, à Lyon, a lancé l'œuvre de la propagation de la foi et qui a permis, donc, dans un esprit missionnaire, en quelque sorte, de contribuer à l'évangélisation. Je n'ai pas encore mis ces deux éléments, séminaire et l'œuvre de Pauline Jaricot, il n'y a rien eu, mais il n'y a pas nécessairement eu grand-chose, en tout cas, jusqu'à peu près 1830. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, eh bien, on fait avec les moyens du bord, en quelque sorte. Le clergé est assez âgé. Et il y a en fait une sorte d'emprise héritée de ce qu'on appelle le siècle de lumière, mais là il y aurait aussi beaucoup à en dire, avec Voltaire et d'autres qui étaient à la fois antisémites, qui investissaient dans la traite des Noirs et ainsi de suite, la traite négrière. Et donc parler de siècle de lumière, ça pose question. Mais en tout cas cet esprit se diffuse dans une certaine catégorie de la société en France, la bourgeoisie, et qui à l'époque donc marque de son empreinte le domaine religieux et empêche en quelque sorte au domaine spirituel d'éclore véritablement dans les années de 1815 à 1830. À vue humaine, la situation est assez catastrophique et on peut s'interroger sur l'avenir sur le plan spirituel pour l'annonce de la foi. De 1830 à 1880, la piété mariale pour une première partie, sa diffusion, la dévotion au Sacré-Cœur, deux domaines qui échappent quelque peu à l'historien, qui s'efface devant l'indicible en quelque sorte. Troisième partie sur les engagements humains, où nous verrons un certain nombre d'exemples.